Eh bien, on continue les interviews maintenant avec C'est de la locale. Aujourd'hui, je suis en compagnie au téléphone de Didier Blasco. Bonjour Didier, comment ça va ?
Bonjour, écoute, ça va bien. Excellente année à toi et à vos auditeurs.
Eh bien, je te remercie. Je te souhaite aussi une excellente année à toi aussi. Tu fais partie d'un groupe français qui s'appelle Les Dupont, groupe de musique électronique. Vous êtes originaire de Nice. Tu as fondé ce groupe en 1994 avec Louis-Frédéric Apostoli, si je ne me trompe pas. Et vous venez de sortir un nouvel EP fin 2018. Vers janvier, c'était, il s'appelle Révélation. Alors ça change un peu votre
Élévation.
Excuse-moi.
Mais Révélation, ça marche aussi.
on va pas changer le nom de l'EP comme ça. Alors c'est un EP qui change pas mal de ce que vous faisiez avant. Vous êtes dans la musique électronique. Vous êtes vachement depuis 1994. C'est une première question, un peu affirmation. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes quand même l'un des premiers groupes d'électro de France quand même?
Non, bien sûr que non. Par contre, on est un des premiers groupes de Intelligent Dance Music, IDM, voilà, qui est le contre-pied de l'EDM, l'électronique dance music, qui représente tristement un peu la majorité de la musique électronique aujourd'hui. Quoi. Voilà, mais bon, c'était pas une volonté de mépriser un autre style d'électro plus dance, plus fun, plus commercial, en adoptant une position artiste. C'était pas ça. Nous, on a fait simplement, en fait, Les Dupont, c'est vraiment une création d'un duo de beaux-arts, comme beaucoup de groupes ont émergé comme ça d'ailleurs. Voilà, et nous, on a utilisé un petit peu la culture de cet environnement de beaux-arts pour créer notre musique. Et à l'époque, des groupes IDM, c'est vrai qu'il y en avait très très peu. Moi, je pense qu'il faut même pouvoir dire qu'on est un des premiers, quoi. Je pense qu'il y avait Nova Nova à l'époque sur S-Communication.
Oui, oui.
Et on devait être deux ou trois, quoi, dans ce registre. C'est-à-dire, nous, on regardait un petit peu plus du côté de l'Angleterre, des groupes comme les groupes de Warp, comme Aphex Twin, ou des groupes, au son sophistiqué comme Orbital. Ben, voilà, ça, c'est ce sont un peu nos mentors, quoi.
Ben, c'est ce que j'allais dire pour les auditeurs, l'IDM.
L'idée c'est de couvrir tout le spectre des musiques électroniques. C'est-à-dire, nous, on a commencé en faisant du hardcore très frénétique. D'ailleurs, on a un single Cinetic Rex qui est devenu une espèce de collector pour les DJ hardcore. On a fait des disques avec Manuel Malin, Lisanne Elias, et jusqu'à de l'ambiance très relaxante. Donc on couvre tout le spectre. C'est pour ça d'ailleurs que de l'album précédent qui date de septembre, Grand Memories, qui est un album très électro, techno new beat, jusqu'à Élévation, il y a aussi une espèce de shift très, très important. Mais nous, ça nous dérange pas. On conçoit la musique comme ça.
Et oui, parce que la musique est une question d'humeur et d'émotion. Et en fait, on n'a pas toujours les mêmes. Donc c'est bien aussi de faire des choses différentes, justement. Quand je disais tout à l'heure, c'était peut-être l'un des premiers groupes français d'électro, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup qui avancent le début de l'électro française avec l'album de Motorbass, un peu de la French Touch,
Motorbass,
en quelque sorte, mais qui est sorti un an après votre premier album, en fait.
De Daft Punk.
Non, à Motorbass, c'était Étienne de Crécy, qui était accompagné de je ne sais plus comment il s'appelle, justement. Ils étaient partis en Allemagne pour aller écouter. Et vous, c'est vrai qu'en fait, vous avez déjà fait votre premier album qui s'appelait Miracle, qui est super d'ailleurs, que je conseille à tous les écouteurs d'écouter, qui est sorti donc en 95, c'est ça, hein?
Oui.
Et Motorbass, lui, c'était en 96, leur album. Et du coup, Miracle, Motorbass, c'est plutôt l'Allemagne. Et vous, c'est vrai qu'on sent plus une influence anglaise. Donc, voilà, comme tu disais, Aphex Twin, je pense que Squarepusher, un peu tout ça.
Oui.
Est-ce que vous avez.
Non, mais tu vois, c'est les mêmes années. On n'a pas chipoté à un an près. Nous, on a commencé nos premiers lives avec le soutien de Polygram. On jouait avec des gens comme Daft Punk, Laurent Garnier, Paul Van Dyke. Il y avait aussi Kenny Larkin, Pac-Man, Carl Cox, ces gens-là avaient déjà fait des disques même avant nous.
Ouais.
Tu vois, mais on n'était pas dans le style IDM. Je pense qu'on est à peu près les seuls à cette planter. D'ailleurs, ce qui était absolument catastrophique auprès de Polygram, parce que notre album c'était très peu vendu.
Mm-hmm.
Voilà.
Les gens étaient plus sur la house, tout ça, en fait, à l'époque, sûrement.
Ah, c'était la French Touch. C'était la grande époque, le démarrage de la French Touch. Donc nous, avec notre album IDM, on avait fait très peu de ventes. Hein, et puis c'était quand même assez difficile de le promouvoir, même si on a bénéficié des circuits de la major dans laquelle on était à l'époque. Mais sans cela, notre musique serait restée vraiment très très, je dirais, encore plus confidentielle qu'elle ne l'est. Voilà, sans parler de la pseudo-révolution numérique et de la difficulté à diffuser de la musique aujourd'hui. Bon, c'est un autre débat.
Ouais, clairement. Et donc surtout à l'époque, la diffusion, en fait, même juste donc de ce genre de musique, t'as un peu déjà répondu en disant que t'as eu le soutien des majors pour aider à l'album et tout. Mais comment est-ce que ça a été accueilli en plus de ça, en fait, après? Est-ce que vous avez été surpris par le fait que voilà les les gens ont quand même pas mal écouté tout de suite beaucoup d'électro dans ces années-là. Et pourtant, c'était quand même très éloigné de ce qui se faisait à peine 10 ans avant.
Le problème, c'est qu'on est français, c'est sur ça le problème. C'est-à-dire qu'on est nul n'est prophète dans son pays, donc ça a été quand même très difficile de développer cette musique en France, pour ne pas te le cacher. Je pense que c'est ça le... Oui, ça a été difficile. Il y a eu une espèce de désintérêt des médias pour ce type de musique. Mm-hmm. Pour eux, l'électro était quelque chose d'un peu, on va dire, vulgaire et facile à identifier dans un genre dance commercial. Voilà, de l'extérieur, on a du mal à imaginer qu'il y a des nuances dans ce genre musical. Hein. C'est un genre qui est exclusivement fait de nuances, hein, un peu comme n'importe quel genre musical. Voilà, donc de l'extérieur, les médias se donnent pas la peine d'aller voir, et d'où une certaine disparition médiatique. Bon, heureusement qu'il y a les festivals, des lieux où on peut jouer, quelques critiques de temps en temps attendent l'oreille. Voilà, mais c'est très difficile quand on fait de l'électro un peu, on n'est pas conventionnel.
Et pour rester un peu, c'est pas pour, enfin, en quelque sorte dans les difficultés, mais à l'époque surtout, c'était aussi une matos qui devait pas être facile à trouver, je pense. Ça se passait comment?
Alors nous, on a eu une bonne chance, parce que comme on est des Beaux-Arts, en fait, on est arrivé à la Villa Arson en 87, oui. Et en 87, il y avait le curateur de la Villa Arson dans les Beaux-Arts de Nice, qui est arrivé, en direct du musée de Genève, je crois. Il a voulu imposer une option art contemporain pur. Ça veut dire qu'il a viré tous les profs classiques, lithographie, sculpture, dessin, etc. Il a viré tout, et le prof de son. Et donc, restait un studio son absolument incroyable, parce qu'il venait juste d'être équipé avec les... Bon, je te parle de choses anciennes, mais c'était la norme MIDI venait d'arriver, des sampleurs, un 48 pistes, enfin un matériel, mais de folie, que personne n'utilisait. Alors moi et Louis, c'est un peu comme la légende de Prince qui, la nuit, qui était gardien de nuit et qui, dans un studio, et qui la nuit enregistrait ses maquettes dans le studio. Nous, on a fait ça. Voilà, donc on a travaillé avec un matériel absolument... Mais c'est vrai que tu as raison, c'était un matériel qui coûtait extrêmement cher à l'époque, et bien sûr, nous, on n'avait pas les moyens de... Voilà, et moi j'ai envoyé des maquettes à Polygram, donc je suis monté sur Paris.
D'accord.
Et bon, le son était d'enfer, ils nous ont signé tout de suite, mais le problème, c'est qu'on n'avait plus rien quand on est monté sur Paris.
Oui.
Voilà, mais la chance d'être sur une major, c'est qu'ils ont pu investir, avancer de l'argent pour qu'on crée notre propre studio, etc. Mais il faut dire, c'était une époque, 90, où un sampler, ça coûtait relativement cher, et à moins d'être fortuné ou d'avoir l'appui d'une maison de disques, c'est vrai que c'était difficile de faire cette musique. Moi, je pense que les premiers qui ont fait ces musiques, genre X-Express, ou qui ont utilisé des sampleurs, c'est des gens qui ont, voilà, je sais pas, qui ont mis de l'argent en commun pour se payer ces machines.
Bah, oui.
Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, ça coûte
Thomas Van Galter, c'était un fils de producteur. Hein. C'est pas pour rien qu'il a réussi aussi à s'y mettre assez facilement, je pense. C'est vrai que le matos à l'époque, c'était vraiment assez compliqué, quoi. Et puis, il fallait aussi toucher, je pense, au niveau technique, en fait, surtout, en fait, avec la manière dont tout ça marchait, les sampleurs. Je sais pas si vous avez travaillé avec des TR ou ce genre de choses.
Oui, alors moi, j'étais plutôt bon pour programmer des boîtes à rythme, des Roland, ce qui était un truc de... Enfin, c'est des programmations pas, mais c'était extraordinairement fastidieux. Quoique maintenant, avec une nouvelle génération, ça revient, les jeunes, je dirais, technomans, s'intéressent à ce matériel vintage et n'hésitent pas à programmer pas à pas et faire des choses vraiment compliquées. Mais bon, c'était quand même la croix et la bannière. Techniquement, écoute, non, nous, tu sais, pour nous, l'électro, c'était une façon de faire de la musique en toute liberté, tout seul, en maison de disque, même si on les a rejoints après. Mais au départ, c'était faire la musique qu'on voulait en toute liberté, en contrainte. Donc, il y avait un côté punk. Donc, ce que je veux dire, c'est un peu comme le punk. C'est-à-dire, quand on se retrouve face à des machines, ben, on branche, on plug, on essaye, mais on n'avait absolument aucune connaissance technique. Mmh. On faisait tout à l'oreille. Voilà, c'est après que les connaissances sont arrivées. Il a fallu quand même un peu bosser, parce que ça, c'est quand même méchamment compliqué depuis avec le numérique. Enfin, je trouve que maintenant, c'est plus compliqué de travailler en numérique qu'avec du hardware, où tu faisais ça un peu au feeling.
D'accord. Et donc,
c'est ma vision. Hein.
Je comprends carrément.
On n'est pas obligé de la partager. Hein.
Ça devait être à peu près ça. Et puis c'est vrai que maintenant, en plus, avec le matos aussi qu'on a maintenant, on peut plus partir dans les choses beaucoup plus précises, dans la composition peut-être électronique. Alors maintenant, il y a des sons qui sont vraiment de plus en plus fins, mais il faut que ce soit vraiment étudié à chaque fois. Et peut-être
moi je suis frappé par des gamins qui sur YouTube mettent des tutos sur live, ils découvrent des trucs, mais on voit vraiment qu'ils bossent à fond, le son, la technique, et je trouve ça très très bien. D'ailleurs, moi je continue à apprendre beaucoup grâce à eux, parce que je suis bien sûr cette même évolution, mais ça n'a rien à voir avec la façon de faire de la musique avec des sampleurs et une table analogique en 90, tu vois, où là là on branchait. Mais d'ailleurs ça donnait des choses intéressantes. C'est pour ça qu'on a commencé à faire du hardcore, parce qu'on a trouvé des, peut-être par incompétence technique, on produisait des sons mais assez incroyables et qui transperçaient tout. Et ça crée, ça permet de faire une musique un peu, comment dire, qui s'est fait remarquer à cause de cette dimension brutiste. Voilà, c'est des choses que peut-être on ferait moins avec un live aujourd'hui où les sons sont quand même déjà standardisés.
Alors ça se fait toujours justement, c'est pour ça qu'on va peut-être revenir un peu au présent avec votre, alors, votre dernier album est vachement complet, votre dernier EP pardon, Elevation, c'est qu'il est assez particulier, c'est 4 morceaux, c'est une toute autre ambiance par rapport au reste. Tu m'as dit en off que tu m'en parlerais bien, c'est beaucoup plus plaisant, oui. Mais moi j'ai aussi beaucoup aimé quand même, moi c'est aussi mon genre quand même de musique. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce dernier EP?
Sur Elevation.
Ouais.
Alors Elevation, c'est en fait les Dupont, des fois on fonctionne à 3. Par exemple, on a fait beaucoup de hardcore avec K21 qui est un art sur Nice. De temps en temps on invite des guests. Là on a un projet de, mais alors complètement différent, de house baléarique enregistré à Ibiza avec un flûtiste d'Ibiza. Et donc pour te dire qu'on fait des projets en faisant intervenir une troisième personne, on élargit notre champ d'investigation, de recherche. Mm-hmm. Et là en l'occurrence on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Damien Sorrentino, qui est de Marseille, et on a fait des séances, comment dire, de, c'est un peu comme les Boeufs en jazz. Alors lui il fait de la musique, de la synthèse modulaire, hein. Mm-hmm. Donc il a un grand studio avec plein de synthés, d'oscillateurs qu'il patch à l'ancienne avec des câbles. Et on a fait une espèce de buff modulaire, c'est-à-dire des séances de plusieurs heures d'enregistrement, voilà, d'improvisation. Ensuite, moi j'ai fait une sélection de ces morceaux et je les ai, comment dire, retraités en rajoutant des samples, en les retaillant. En fait, je les ai produits. Mm-hmm. Voilà, ce qui, en les colorant d'ambiances diverses avec des
avec les voix, tout ça qu'on entend pas mal, par
oui,
exemple.
Oui, des voix, c'est des. Enfin, il n'y en a pas tellement dans Elevation, mais ce sont des. C'est de la culture de masse, de la culture populaire, c'est un peu n'importe quoi, c'est nos enregistrements à la radio, à la télévision, mais des choses toujours un peu qui expriment une certaine critique sociale, par exemple les discours du pape, des trucs comme ça, voilà.
D'accord.
Et donc l'album qui va sortir, c'est aussi un peu une première, c'est l'idée de refaire une musique psychédélique des années 70, mais 2.0 aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire en superposant des couches de guitare, des claviers, c'est retrouver l'énergie primaire des groupes de krautrock des années 70, voilà, tu vois, c'est musique avec des polyphonies tourbillonnantes et puis avec un côté narratif d'un concept album. En fait, l'album qui va venir, c'est, ça s'appelle Still Chasing Any Kind of Dream, mm-hmm. encore à la recherche de toutes sortes de rêves, si tu veux. Et c'est deux plages de 30 minutes.
D'accord.
Voilà, l'album, c'est uniquement deux morceaux de 30 minutes, donc un peu comme dans une ambiance des années 70, on osait faire ça.
Ouais, bah ouais, ouais.
Ça raconte la journée d'un junkie, du départ, de la matinée où il cherche de l'argent. Ça, c'est illustré parce que je suis aussi réalisateur, donc on retrouve cette narration dans les clips. D'ailleurs, dans Elevation, il y a la première partie de l'histoire. C'est un junkie qui cherche de l'argent et qui vole pour trouver sa cam. Il y a un morceau qui est assez long, qui symbolise l'élévation, et un deuxième morceau qui est le retour, le difficile retour à la réalité. Voilà.
Et donc justement, ce que tu dis que tu es réalisateur, vous avez en fait fait pas mal de projets en fait depuis des années. Ça sent en fait, je savais pas, mais comme tu m'as dit que vous avez fait les Beaux-Arts, bah, maintenant je suis moins étonné. Vous avez fait par exemple en 2014 une performance qui s'appelait Someone Else Dream et Crash.
Oui.
J'aimerais que tu m'en parles, parce que moi tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'était voilà, quelque chose qui mélangeait pas mal de choses, de la musique, de la vidéo, des images, tout ça. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ce genre de projet, et aussi pourquoi est-ce que du coup on peut retrouver donc on peut vous retrouver donc dans des projets comme ça, qu'est-ce qui vous attire là-dedans?
Oui, alors c'était une performance pour l'IRCAM Live. Alors l'IRCAM Live, en fait j'ai un petit pied je dirais dans l'IRCAM, qui est le centre de recherche et d'études acoustiques à Paris, et qui a été dirigé par Pierre Boulez. Donc c'est un peu le lieu, c'est un laboratoire, c'est assez unique en Europe, c'est un laboratoire de recherche d'innovation sonore où on développe en fait les outils qui seront utilisés plus tard. Par exemple, Max a été inventé là.
D'accord.
Dans les années 80, même très, très, dans les années 80 je crois. pas. Robert Henke, un des inventeurs de live, a commencé à construire son live à l'IRCAM. Voilà, donc c'est pour te dire que bon, c'est essentiellement de la musique contemporaine. Mais à côté de la musique contemporaine, il y a aussi beaucoup de recherche et d'informatique musicale. Voilà, et ça, ils sont aujourd'hui en train de créer les outils qu'on utilisera demain. Voilà, donc c'est intéressant de traîner un petit peu par là. Et puis, bon, un jour, j'avais envoyé un dossier, puis j'ai été sélectionné pour faire l'IRCAM Live. C'était assez flatteur parce que chaque année, enfin, l'IRCAM Live, c'est un concert, mais qui brasse aussi des genres, je dirais, voisins des musiques contemporaines, donc à savoir une électro un peu pointue. Mm-hmm. Et régulièrement, l'IRCAM Live, ce sont des gens de Warp, sont invités. Il y a eu Neotrix.7, et l'année suivante, c'était le seul groupe français qui existe sur Warp, c'est Jackson, Indies Computer Band.
Ah, je ne connais pas du tout.
C'est un français, c'est très bien. Jackson, Indies Computer Band, voilà, c'est ça. Et nous, on a joué en première partie de cet artiste une performance, oui, qui résume, oui, qui mélange vidéo, performance avec comédien et musique live.
Eh bien, moi, je suis bien pour qu'on, du coup, on écoute un petit extrait. De ce que vous faites, un petit extrait donc alors pas de votre dernière EP Élévation, on s'était dit on va prendre, parce que vous en avez deux en fait un peu d'actualité en ce moment quand même, vous avez aussi donc l'album Progrès Memories qui lui est beaucoup plus hardcore en quelque sorte, enfin qui bouge beaucoup plus électronique.
Oui, non, il est pas du hardcore, il est plutôt électro,
c'est plutôt acide un peu. Moi je te me fais penser aussi un peu acide techno sur les bords, je sais pas si ça m'a fait penser un
alors,
peu à du
Cifax. Certains titres vont jusque là, oui,
voilà. Et donc on va s'écouter un petit extrait. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? J'étais chaud pour qu'on écoute le morceau Palomino, parce que j'aime beaucoup celui-là. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une petite anecdote sur cet album avant qu'on s'écoute ça?
Oui, alors Palomino, c'est un peu comme tous les titres de cet album, Programme de Memories, est influencé par l'ASF. Mm-hmm. Moi, je suis aussi, en tant que réalisateur, un grand consommateur de films de genre et de SF. Donc, chaque morceau de Programme Memories renvoie assez clairement, ou alors, enfin, si on écoute entre les lignes musicales, on s'en rend compte assez vite, ça renvoie à un film précis. Alors, Palomino, ça renvoie à un film qui, moi, gamin, m'avait complètement retourné. Ça, c'est Le Trou Noir de Walt Disney, réalisé par Gary Nelson en 1979, qui a été un bide, mais monstrueux.
Ça me dit rien du tout.
Et est devenu maintenant un film absolument culte parce que c'est un peu comme Tron. Ouais. Voilà, il y a une direction artistique assez incroyable. Tu connais ce film?
Alors, Tron, oui. Tron, on connaît surtout en plus l'histoire, c'est que c'est vrai qu'au début, ça n'avait pas vraiment marché. Au début, Tron. Et après, c'était surtout une énorme révolution
là,
technique.
Je te parle de Black Hole, le trou noir.
Le trou noir, justement, non, je te disais que je ne connaissais pas. Vas-y, continue.
Il y a l'histoire tient sur un timbre-poste, hein. C'est un vaisseau qui arrive aux abords d'un trou noir, alors c'est créé en images de synthèse de l'époque, c'est délicieux à voir, c'est une espèce d'entonnoir, de gris qui figure un entonnoir, et il y a une scène, notamment une scène finale qui est infernale, qui est très très belle, qui est en gros le méchant qui veut lui entrer à l'intérieur du trou noir alors que tout le monde flippe, utilise un robot comme un homme de main, c'est une figure assez connue, il est assez grand et avec une espèce de barre latérale rouge à la place d'un regard.
Je l'ai sous les yeux et en effet c'est assez connu en fait, l'imagerie de ce film est assez connue.
Oui, cette image de robot est frappante. Alors la fin c'est absolument sublime, le vaisseau arrive à éviter le trou noir mais on balance le méchant avec le robot dans le trou noir et à l'intérieur du trou noir il fusionne, c'est-à-dire il y a cette image absolument frappante du regard du méchant qui est le lieutenant du vaisseau à la place de cette barre rouge. Donc on comprend qu'il est enfermé dans le corps de métal du robot et que son destin c'est d'être emprisonné à vie là-dedans. Et enfant, quand tu vois ça, franchement, tu es limite traumatisé. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Bon, il y a une ambiance sonore extraordinaire. Donc, on retrouve en écho cette scène finale qui est infernale de chute dans le trou noir et de fusion avec le corps métallique du robot dans le morceau. Voilà Palomino.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. On va écouter tout de suite donc Palomino sur Radio Pulse du groupe Les Dupont, sorti donc sur l'album qui s'appelle Programmed Memories, et c'est tout de suite sur Radio Pulse 90 FM. Eh bien voilà, c'était Palomino du groupe Les Dupont. Je te remercie beaucoup, Didier, d'avoir répondu à mes questions. Pour clore tout ça, est-ce que vous avez dans quelques temps des lives ou des concerts de prévu, quelque chose?
Écoute, des lives, là c'est un peu moumou en ce moment, mais le single Élévation a déjà de bons échos, ce qui me surprend beaucoup parce que pour moi c'était vraiment une expérience. Mais bon, ça suscite un peu d'intérêt, alors peut-être que ça débouchera sur un live ou deux.
Eh bien,
alors, je ne peux rien dire pour le moment.
J'espère que ça marchera bien pour vous. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être?
Non, bien... Si, écoutez Les Dupont, allez sur la chaîne de YouTube, ouais. Parce qu'il y a une centaine de clips qui valent le coup d'être regardés, avec beaucoup d'images de... Bon, ça c'est l'héritage Beaux-Arts, bien sûr, mais il y a beaucoup d'images de Man Ray, de réalisateurs des années 20, 30, que j'affectionne particulièrement. Mmh. Voilà, il y a aussi la page Facebook Les Dupont, qu'on peut rejoindre si on en a envie.
Ah bah voilà,
et on peut les écouter aussi gratuitement sur Deezer et tout,
Puis
avec
sur
beaucoup
YouTube
d'interruptions
aussi.
Publicitaires.
Bah sur YouTube aussi, en plus aussi. Moi, je les ai écoutés sur YouTube, les albums, malheureusement. Et puis, je te remercie beaucoup pour cette interview.
Merci à toi.
J'espère que pour vous, ça va fonctionner. Et je conseille vraiment aux auditeurs d'aller écouter un petit peu tout ça. Pas forcément que le dernier album, voire même le premier Miracle, qui était vraiment super. Qui est vraiment super. Voilà, j'espère que nos auditeurs iront voir. Eh bien, je te remercie,
oui.
Et je te souhaite bonne continuation.
Merci, à bientôt, Oscar. Merci.
À bientôt.